Présent.
Serge de ses maisons.
Présent.
Laetitia de Villard.
Au revoir.
Nathalie Renaud. Marion Jacob Chaillet. Hervé Fontienne. Michel Georget.
Présent.
Catherine Morel.
Présent.
Arthur Saint-Gabriel.
Présent.
Kireillé.
Présent.
Christine Francoise.
Présent.
Martine Boragno.
Présent.
Solange Rossignol. Jean-Michel Huyang.
Présent.
Hervé Châtelain.
Présent.
Stéphane Fichon.
Présent.
Catherine Écran.
Présent.
Patrick Boli.
Bonjour.
Maria Garcia.
Présent.
José Donatimiento.
Bonjour.
Vitaïla Sebata.
Présent.
François Latouf.
Présent.
Sybille Daligny.
Présent.
Rénal Mongin. Stéphanie Soares.
Présent.
Caroline Cornu.
Bonjour.
Camille Daïtoma.
Présent.
Pierre Laroche.
Bonjour.
Yann Zedmour.
Présent.
Jean-André Lasserre.
Pouvoir.
Corinne Leroy-Burel.
Présent.
Joël Paris.
Présent.
Jean-Philippe Elie.
Présent.
Karine Lernaut.
Présent.
Cécile Boucherie.
Présente.
Alban Thomas.
Présent.
Richard Croche.
Présent. Présent.
Floriane Deniau.
Présent.
Dominique Guilloire.
Présent.
Et Arash Deramba.
Présent.
Merci. Premier dossier, jumelage avec la ville de Belgique. Au regard de leur histoire respective, la France et le Liban entretiennent des relations fortes. Il convient de faire perdurer à travers la coopération internationale des échanges locales. Cette mairie, station balnéaire, compte 35 000 habitants en hiver et 30 000 en été, est située à 16 km de Beyrouth et souhaite trouver un partenariat avec les Français. La ville souhaite développer des échanges avec Belgique à travers un jumelage. Cette démarche permettra notamment de développer le rayonnement d'Auville. Le souhait de nouer des liens d'amitié et de coopération avec les communes repose sur deux objectifs communs qui sont favoriser des échanges scolaires et participer d'ailleurs au développement de la francophonie. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères parce que la francophonie diminue beaucoup souvent et donc j'attends sa réponse. Pour conduire l'organisation des services administratifs afin de s'inspirer d'expériences éthiques des villes, développer des projets communs, notamment à travers des rencontres avec les jeunes, du personnel des municipaux, des membres de la société civile ou de la société associative, soutenir les créations culturelles et sa diffusion à travers des expositions, des concerts, des découvertes du patrimoine historique des deux villes et leur capitale, et de favoriser l'économie et les échanges entre les entreprises des deux villes et en particulier entre la défense. Les objectifs représentent des nationalités pour fixer le taux d'une amitié profonde menée par l'enrichissement réciproque. On a présenté ce dossier à la Commission de l'urbanisme le 8 décembre 2014 et demandé au Conseil d'approuver la mise en place d'un jumelage entre l'île de Courbouët et Belmairie et de m'autoriser à signer la convention de jumelage ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Allez-y, c'est à votre tour, vous étiez
jumelles ont commencé après la Seconde Guerre mondiale afin d'établir des liens d'amitié au niveau le plus proche possible des citoyens dans le but d'enraciner la paix en Europe et de dépasser les rancœurs historiques. Notre premier jumelage à Courbevoie a été en 1957 avec une ville belge, suivi d'un deuxième en 1961 avec une ville allemande et d'un troisième en 1993 avec une ville anglaise. Le quatrième jumelage proposé aujourd'hui est cette fois-ci extra-européen, avec une ville libanaise située à 4h15 en avion sans escale. Les buts de ce jumelage avec la communauté libanaise amie sont très louables, mais ne concernera que quelques groupes de voisins, compte tenu de l'éloignement de nos deux villes. Il nous apparaît important que l'argent récolté par l'impôt serve pour des investissements locaux. La priorité doit rester pour le pouvoir d'achat des Français. Il vaut mieux baisser les impôts locaux plutôt que de dépenser l'argent du contribuable pour ce jumelage lointain. Dans notre ville, l'amicale Liban Courbevoie ALC permet déjà de manifester les liens d'amitié avec la communauté libanaise de Courbevoie. Malgré toute l'amitié que nous portons au peuple libanais, nous pensons qu'il n'est pas raisonnable de créer ce nouveau jumelage qui sera financé par tous les courbevoisiens. C'est pour ces raisons que nous voterons ce quatrième projet de jumelage.
Merci. Voilà.
Oui, alors contrairement à ce qui vient d'être dit, notre groupe pense au contraire que c'est une très bonne initiative. Donc les liens entre Courbevoie et le Liban existent, ils sont déjà ancrés depuis longtemps par la population courbevoisienne. Alors moi j'ai plusieurs questions sur ce village de, alors je ne sais pas comment on prononce, Bête-Mairie. Je voudrais savoir exactement le nombre d'habitants, parce que c'est une information que je n'ai pas réussi à trouver. Là vous nous donnez le nombre d'habitants en période de vacances. Et voilà, j'aurais aimé savoir notamment avoir ce chiffre précis pour savoir combien d'écoliers sont scolarisés à Bête-Mairie et quels seront donc les échanges possibles avec les enfants de Courbevoie.
25 000 habitants déjà.
Parce que 25 000
habitants d'hiver et 30 000 en été, comme à peu près comme les chats.
Oui. Oui, mais là, c'est en période estivale. Et je sais qu'en hiver, il y a un festival très important qui attire beaucoup de monde. Donc, voilà, je voudrais savoir le nombre d'habitants permanents à Bête-Mairie et notamment le nombre d'enfants que ça peut représenter, si c'est quelques centaines d'enfants ou quelques milliers d'enfants.
Sans avoir connaissance de l'ouvrage particulière avec Bête-Mairie sur le nombre d'enfants, la population libanaise est une population plus jeune que la population française. Donc même pour une ville qui est moins importante que la nôtre, il y a un certain nombre d'écoles. Je pense que pour le coup, il y aura matière à organiser des villages, et les villages de production, c'est l'intérêt. Comme vous le soulignez, il y a le festival de Bête-Mairie qui est très connu, il y a un patrimoine de Bête-Mairie qui est quand même très important. Donc on peut imaginer que non seulement sur les aspects culturels autour de la Mongolie du Jean, mais aussi sur les aspects scolaires et culturels, on sera au contraire sur un terrain qui sera particulièrement riche pour les jumelages avec les scolaires.
D'accord.
Vous voulez rajouter sur
ça ? Oui.
Non ?
Alors, d'autre part, j'aurais aimé savoir, je sais que Madame Limoges, vous-même et Monsieur Latouf est allé sur place. Je voudrais savoir qui a payé les frais de déplacement. Est-ce que c'est la ville ou...
Le maire de Bête-Mairie.
D'accord. Parce que il aurait été possible de faire une délibération permettant de voter le...
J'ai été invité.
D'accord. Donc vous avez été invité. Ok. Et enfin, une autre question concernant ce qui existe déjà comme partenariat entre la région Île-de-France et la région de Beyrouth. Bête-Mairie, c'est juste à côté de Beyrouth, d'après ce que j'ai compris. Il existe déjà un partenariat assez poussé entre la région et Beyrouth, et notamment il y a un permanent français qui représente la région à Beyrouth. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une articulation entre ce qui est prévu à Courbevoie et ce que fait déjà la région, comment est-ce que ça se complète, ces deux choses-là. Et voilà, déjà cette question-là.
Quand nous avons fait une amicale franco-italienne, justement, les responsables de la région, et en particulier même de Surel, sont venus, puisqu'ils travaillent beaucoup avec le Liban, donc ils ont bien entendu, ils ont prodigué quelques conseils. Je pense qu'on ne peut pas faire un jumelage seul. On le fait bien entendu, ça existe déjà. Donc, ça sera l'association complète civile de la région qui organise cela.
Et enfin, une dernière question. Je voulais m'assurer que Bête-Mairie n'était pas déjà jumelée avec Saint-Brieuc, parce que c'est une information que j'ai pu voir sur Wikipédia. Et quand je suis allée sur le site de Saint-Brieuc, j'ai vu aucune mention de ça. Donc, voilà, je voulais en être sûre.
Ils ont démenti être jumelés avec.
D'accord.
Comme le premier vache, ce sera eux qui viendront, nous on verra quand on viendra en fonction, disons, de l'importance que cela donnera, on va poser des questions, mais justement, alors, peut-être que si nous sommes absolument pas les simples.
D'accord, donc c'est une fausse information. D'accord.
Monsieur.
C'est une initiative qu'on encourage, je sais pas, monsieur Latour, donc on votre rapport. Dans la mesure où on encourage l'ouverture de la dans la mesure où Courbevoie doit s'ouvrir vers le monde, donc c'est une bonne impulsion de la part de M. Latour qui est élu au conseil municipal. Donc on va être à pour.
C'est pas certain. Donc, il est contre, à part vous deux, contre, tout le monde est pour, je vous remercie. Avis sur le projet de décret portant dissolution des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines à compter du 31 décembre 2015, modifiant le décret 2006-1140 du 13 septembre portant création des établissements publics fonciers d'Île-de-France. Par courrier du 6 novembre 2014, le préfet de région d'Île-de-France a rappelé que l'article 17 de la loi numéro 2014 du 27 janvier de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit qu'au plus tard le 31 décembre 2015, l'établissement public foncier de l'État de la région de France, dont le périmètre est plus large, est substitué au autre établissement public foncier de l'État de la région dans leurs droits et obligations. Cette substitution nécessite l'abrogation des décrets portant création des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines, la modification des décrets 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'établissement public foncier de l'Île-de-France. Cette abrogation et cette modification doivent faire l'objet d'un décret. Et les intercommunalités compétentes en matière de PLU ou les communes non membres de telle intercommunalité sont invitées à se prononcer dans le délai de 3 mois et ce projet de décret, faute de quoi leur avis sera réputé favorable. Le projet de décret ainsi qu'un tableau comparatif a été communiqué préalablement afin que vous puissiez en prendre connaissance. Le dossier a été présenté à la Commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 8 décembre 2014. Le PH Île-de-France sera compétent pour intervenir sur l'ensemble du territoire de la région, y compris dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines, qui ne relèvent pas précédemment des territoires d'intervention de l'établissement régional. Cet établissement sera habilité à procéder à toute acquisition foncière, opération immobilière de nature à faciliter l'aménagement, mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. La lecture et l'analyse du projet de décret m'amène à proposer d'émettre un avis défavorable au regard de l'aspect qui nous concerne, la dissolution de l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine. Ce projet de décret engendrera un risque important de désorganisation de la politique foncière départementale. À la différence de l'EPF régional qui souhaite aussi intervenir en matière économique, l'EPF des Hauts-de-Seine s'est donné pour ambition de centrer son action principalement en faveur de la création de logements. La dissolution de l'EPF des Hauts-de-Seine va désorganiser la montée en puissance de l'activité déployée depuis ces dernières années au service de la production quasi exclusive de logements, qui plus est dans un contexte de ralentissement significatif de l'immobilier. Ce projet de décret remet en cause un modèle de décision de proximité. La gouvernance actuelle de l'EPF des Hauts-de-Seine lui permet de faire reposer son intervention sur un partenariat étroit avec les communes. Ce sont en effet les conseillers généraux et les maires du département, membres du conseil d'administration, qui, en lien avec l'État, définissent et assurent le suivi et la politique foncière de notre territoire. Cette gouvernance locale permet de prendre des décisions adaptées, car elles sont ancrées et documentées par une bonne connaissance du contexte. Les élus locaux, en particulier les maires, sont en effet les meilleurs connaisseurs de leur territoire, de ses capacités de production immobilière, des difficultés potentielles et de l'adhésion des habitants à des opérations immobilières et urbaines susceptibles de modifier leur cadre de vie. La création de partenariats locaux permet de créer des circuits de décision courts qui sont parfaitement adaptés en matière de foncier. Ce projet de décret entraînera la perte progressive d'un savoir-faire technique local de l'EPF des Hauts-de-Seine et elle est amenée à développer en lien étroit avec les communes compte tenu du niveau d'urbanisme du département. Il y a un risque important que l'EPH régional privilégie le déploiement d'une politique foncière qui ne prenne en compte les particularités, les complexités et les enjeux de l'action foncière des Hauts-de-Seine. Donc, je vous propose un avis défavorable.
Voilà. Oui, bonsoir. Alors déjà, je voudrais comprendre pourquoi la commune de Courbevoie doit émettre un avis sur cette question-là, alors que normalement, ce sont les intercommunalités compétentes en matière de plan local d'urbanisme. Et je m'interroge parce que la communauté d'agglomération Courbevoie plutôt a compétence pour établir un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, a compétence pour ériger un plan local de l'habitat, pour organiser le plan de déplacement urbain. Et je m'interroge pourquoi, avec tout ça, eh bien, ce n'est pas de compétence communautaire.
Mais la communauté d'agglomération Seine-des-Forts n'a pas de compétence en matière de PLU.
Parce que vous l'avez décidé comme ça. Voilà, vous l'avez décidé comme ça. Et ma question, c'est pourquoi vous avez décidé de travailler sur tous les autres schémas qui ont attrait à l'urbanisme et que le plan local de l'urbanisme, vous n'en faites pas cas.
Et je vous rappelle quand même que la CSD et la ville ont été, disons, saisies par le préfet. Disons, on regarde ce que ça peut faire. De toute façon, après, vous aurez un spot qui aura un enjeu communal, puisque vous savez très bien que nous ne resterons pas à deux, donc il y aura bien entendu la question d'un spot. On ne va pas faire la position.
Bon, écoutez.
Et aujourd'hui, on est sur la ville, et aujourd'hui, le PLU, c'est encore la ville de propos.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a encore un peu d'incohérence entre la communauté d'Aglo et la commune. Donc je note que c'est la commune de Courbevoie. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand on crée une communauté d'agglomération, le plan local d'urbanisme intercommunal, ça fait partie de la base des communautés d'Aglo. Alors, ceci étant... Oui, monsieur César. Donc, je note que Courbevoie doit émettre un avis sur le projet de décret que nous, notre groupe, considère comme une avancée réelle pour l'Île-de-France. Avec tout ce que vous avez énoncé, effectivement, on va pouvoir travailler en cohérence. Maintenant qu'il y a un schéma directeur en Île-de-France, qu'il y a le réseau du Nouveau Grand Paris et que nous aurons la chance d'avoir deux gares sur notre territoire, eh bien tout ça, ça va se faire avec la question d'une ingénierie qui va regarder le foncier, qui va travailler contre la spéculation immobilière, pour lequel, effectivement, sur notre territoire, des fois, on peut avoir des questionnements. Je pense au quartier de l'âge que nous aurons l'opportunité de voir plus avant, à la fin, en question orale du conseil municipal. Et donc, notre groupe trouve que c'est une réelle avancée, qu'il y ait des solutions des établissements publics qui sont le fait de lutter contre de la concurrence de territoire. Et donc nous votons favorablement à la dissolution des EPF locaux et pour la création de l'établissement public francilien.
En fait, le conseil général a voté contre aussi.
Ben ça, je m'en doutais.
Avec M. Deville. C'est le général qui veut voter pour la CSD.
Oui, juste, plus exactement, contre le micro, pour l'écho. Juste... plus exactement répondre sur la critique concernant l'incohérence. D'abord, c'est assez audacieux de parler d'incohérence quand il s'agit d'application de la loi. La loi permet et prévoit cette capacité de travailler à deux niveaux. Moi, je veux bien que vous traitiez les législateurs d'incohérence.
Non, c'est pas les législateurs, c'est vous. L'incohérent, c'est autre chose.
Ils ont prévu que le PLU pouvait rester à la commune pendant que d'autres... d'autres documents stratégiques étaient à l'intercommunalité. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est là qu'il faut continuer ça, parce que c'est possible. Sinon, on ne le ferait pas. Et de ce point de vue-là, madame, il y a en ce moment un débat qui a été très longtemps porté de manière unanime et qui a abouti de manière unanime, quelles que soient les couleurs politiques, par les maires et les présidents d'intercommunalité au sein de Paris Métropole, puis de la mission de configuration du Grand Paris, qui aboutit à un nouveau texte, un nouveau projet qui va être soumis au Parlement pour rectifier l'article 12 de la loi MAPAC. Et dans les compétences, il est prévu que les PLU resteront aux communes ou des intercommunalités, pendant que la Métropole du Grand Paris aura le SCOT. Vous voyez, ce qui est prévu pour la métropole du Grand Paris, qui est le grand projet du gouvernement, peut s'appliquer aussi chez nous.
Ça paraît normal, parce que de toute façon, qui connaît mieux les communes que les maires? C'est pas le président de la région qui va connaître.
C'est pas le président, c'est un établissement public. C'est le préfet de région qui va s'occuper de l'établissement public français. C'est pas le président de région, monsieur. Il y aura les élus locaux qui seront dans l'établissement public. Donc vous ferez certainement partie.
On dirait 350 élus, 400, ça va être joli.
Non, c'est... Attendez, le conseil d'administration de l'EPF, c'est pas 300 élus. Hein.
métropole Grand Paris, ça sera
c'est
au
40.
Moins ça. Ce sera au moins ça. Bien. Donc, qui s'abstient? Qui est contre?
On vote pour. Hein.
Ben non.
Non.
Bien. Marché de maîtrise d'œuvres pour la requalification de la place Céron et des Pravis de la Bécaire. Un concours a été lancé en vue de la requalification de la place Céron et des Pravis de la Bécaire. Les travaux sont estimés à 3 500 000 et le montant de la dignité allouée aux trois candidats. Ils ont présenté un projet de 16 000 euros chacun. La durée du marché est estimée à 24 mois. À compter de sa notification, le jury de concours s'est réuni le 19 septembre 2014 et 21 novembre 2014. Trois équipes ont été retenues. Équipe Agence Chabanne, Rogy, Transitech. Équipe Ville et Paysage, Aegis, Atelier Lumière. Et équipe Garcia Diaz, Iris Conseil. Trois équipes ont été invitées à remettre un projet qui a été étudié par les membres du jury. À l'issue de cette étude, le jury de concours a proposé le classement des candidats dans l'ordre suivant, l'équipe rouge, verte et jaune, et vous savez qu'on n'avait pas les noms, on les a après. L'équipe rouge, c'est Ville et Paysages, Aegis, Atelier Lumière, l'équipe verte, Garcia, Diaz, Iris Conseil, l'équipe jaune, Agence Chavanne, Rogy, Transitech. Nous avons pris connaissance du classement des projets par le jury de concours. Le représentant du pouvoir adjudicateur a constaté les offres de chacun des trois candidats et a désigné comme lauréate l'équipe suivante, Ville et Paysages, Aegis, Atelier Lumière. Considérant le travail fourni par les trois équipes pour l'élaboration de leurs projets respectifs, le jury a proposé d'indemniser en totalité les candidats selon les modalités prévues dans le règlement concours, à savoir 16 000 euros hors taxe par équipe. Et ce dossier était présenté à la commission d'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 8 décembre 2014. Il demandait au conseil de confier à l'équipe Ville et Paysages, Aegis, Atelier Lumière une mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la place Sérode et le parvis de l'Abbé Pierre. Un montant prévisionnel valeur novembre 2014, par finance affectée aux travaux 3,5 millions, forfait provisoire de rémunération 341 950 euros hors taxe, taux de rémunération 9,77%, d'indemniser en totalité les trois candidats ayant présenté un projet, sachant que pour l'équipe L'Oréal, il s'agit d'une avance sur ses honoraires, de m'autoriser à signer le marché de maîtrise d'œuvre, ainsi que tous les documents y découlant. Question. Question
ah. Oui, voilà. Alors, ayant participé au jury de concours, je voulais quand même vous dire que c'était quand même un concours décevant. Il y avait trois projets à choisir. À l'unanimité, on n'était pas quand même content de ces projets-là. On savait qu'il fallait les retravailler, notamment deux projets sur les toits. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que pour la ville, c'est un projet qui est en cœur, qui est emblématique historiquement, avec l'église. Ça nous aurait permis de relier vraiment les choses entre les places, le centre événementiel, la place Charras. Résoudre les questions de circulation, de stationnement, travailler sur le commerce de la rue Colombe, travailler sur l'attractivité du cœur de ville. Et vous, comme moi, on n'était pas tout à fait content du résultat, en sachant que peut-être vous allez réintervenir sur le projet, mais qu'il est question d'améliorer ce projet. Alors, pour moi, déjà, je dois vous dire que ça n'est pas dû, parce qu'il y avait 65 participants de mémoire, plus de 60 équipes. Je pense qu'il y a eu un problème au départ de programmation, parce qu'on a vu qu'on s'est concentré sur cette question de place à résoudre, mais qu'on aurait pu y réfléchir autrement, et peut-être que ça aurait été amélioré si on avait réfléchi en termes de stationnement de façon un peu plus large, notamment la rue Massenet, si on avait travaillé sur la question des commerces, la rue de Colombe, et qu'on avait résolu ces réflexions-là, et que même si au final on travaillait sur la partie de la place, eh bien c'était pour moi une échelle un peu plus globale de réflexion. Aujourd'hui, le choix, donc je dois dire que je n'ai pas voté pour ce projet-là, Je pense que un autre projet pouvait davantage être amélioré. J'ai été suivie où l'architecte conseil de la ville a voté comme moi. Donc nous étions quand même deux à nous dire que cette question-là pourrait être améliorée. Moi, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui nous allons voter contre ce projet-là, à savoir que la question de la contre-allée qui donne sur les immeubles de la rue d'Alma et qui va donc créer du stationnement va bloquer finalement un petit peu le projet et au lieu d'améliorer le secteur, va déprécier la qualité de vie des immeubles, des habitants de ces immeubles-là. Et que les questions de trafic, de circulation ne vont pas être pour autant être améliorées. Et donc ce projet-là, je vois difficilement, quitte à abandonner la contre-allée et donc à revenir sur des solutions qui étaient dans les autres projets qui n'ont pas été choisis, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir de cette histoire de stationnement. Donc, dernière chose, mes collègues, puisque je n'étais pas là au précédent mandat, m'ont indiqué que les travaux de la place Hérold avaient avaient coûté 3,5 millions. Et que vous aviez affirmé à l'époque que ces 3,5 millions de travaux, parce que la place a été inaugurée il y a une petite année, il y a peut-être moins d'un an, je ne sais pas, hein, moins d'un an. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le maire, vous pouvez nous dire que... parce que moi, je ne vois pas très bien comment, avec ce projet-là, on va pouvoir conserver les travaux actuellement qui sont sur la place Hérold. Donc, qu'en est-il de ces travaux de 3,5 millions? Est-ce qu'on va devoir tout détruire? Et donc, ça nous aura coûté 3,5 millions juste pour le temps de l'élection municipale, ou que va-t-il en être? J'attends votre réponse là-dessus, parce que je ne vois pas très bien, et je veux que vous nous le disiez comme ça publiquement ce soir, que ce morceau, ce tronçon de place, ne va pas être détruit.
C'est vraiment petit. D'abord, tout projet, ça nécessite une adaptation, ça vous savez, même avec l'architecte. Puis de toute façon, il s'agit d'une esquisse de maître d'œuvre, donc ça va se retravailler. Je vais repasser la parole à Jean Spiri, qui était au début justement de cette étude et qui va vous confirmer que c'est bien un projet qui est voulu. C'est un projet qui va beaucoup plus loin que la place que vous avez fait.
Merci, monsieur le maire. Alors, il me semble que vos collègues ont une très bonne mémoire. 3,5 millions, c'est le prévisionnel de tous ces travaux. Bien évidemment, les travaux qui ont consisté à faire la flèche, il me semblait que c'était votre métier, donc je pense que ça ne vous avait pas abusé. C'est pas de créer une allée de pavés qui coûte 3,5 millions. Enfin, soyez quand même comptable d'un minimum de réalisme de notre part. Ces travaux de mémoire, hein, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ont coûté dans les 300 000 euros, 400 000 grand maximum, toutes taxes comprises.
Avec les études.
Comment ?
Avec les études, M. Spiri.
Avec les études, ça, c'est des études qui ont été faites pour la réalisation de la flèche. Alors ça, c'est très simple. Les études ont été faites par nos services techniques, avec l'architecte conseil de la ville. Donc les 3,5 millions, c'est un vrai chiffre. Hein. Vos collègues, encore une fois, ont une très bonne mémoire. Mais c'est le total du réaménagement futur sur les travaux qui auront lieu en 2015-2016. Donc, bonne mémoire, raté, pas pour la même chose. Donc, je vous rassure, comme vous le voyez d'ailleurs, la flèche est conservée. On a toujours dit que c'était un élément important. Je reviendrai sur deux points que vous avez soulevés qui étaient intéressants.
Monsieur Spé, ouais. La flèche, c'est les trois petites lignes là, qu'on voit sur le projet.
Et qu'est-ce que vous pensez qu'on avait fait d'autre comme travaux avant les élections?
Attendez,
il y a autre chose
mais
qui
ça, vous a frappé, ça, attendez, vous voyez bien, il y a même la voirie ouais. qui passe. Je veux dire, on va garder... Et si on
voirie,
garde quelque chose pendant les travaux...
Excusez-moi, la voirie, elle passe... Enfin, on ne doit pas fréquenter la même place.
Ah ben non.
La voirie, elle passe aujourd'hui le long des
quais. Il y a la voirie, oui, le long des quais. Donc voilà.
D'accord.
Donc
c'est bien la situation actuelle.
On va continuer, on va voir comment ça se passait la phase des travaux. Hein.
On verra comment se passe la phase des travaux. Ça, il n'y a pas de souci, je pense qu'on la verra bien. Pour reprendre un petit peu vos critiques sur le projet... je pense qu'en effet qu'on était d'accord, il y a eu des débats intéressants. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire que le meilleur, comme souvent, c'était un mix entre les deux projets. Certains estimaient que ce projet, parce qu'il était plus travaillé, certains moyens d'une capacité de travail un petit peu supplémentaire, d'autres finalement considéraient que l'autre étant un petit peu plus vierge pouvait être réaménagé. Ça c'est vraiment une question de point de vue, je suis pas sûr que ça passionne tout le monde. En revanche, vous soulevez un point qui est intéressant. En effet, il y avait cette idée de créer du stationnement. En contre, allez, on l'a dit hein, pendant le concours, et il me semble pendant le jury, que cette idée intéressante qui témoignait d'une véritable envie de recréer du stationnement ailleurs, et donc de prendre en considération le grand site, comme vous le demandiez, était intéressante, mais que nous n'opterions pas, au final, pour cette solution, pour justement ne pas créer de gêne de stationnement à un endroit où il n'en existe pas. Ça, je pense que vous pouvez être rassuré là-dessus. On en a parlé.
Hein, oui, on en a parlé, monsieur Spirin, mais alors, fait qu'il n'y ait plus de contre-allées, où les voitures vont-elles stationner?
Eh bien, on a évoqué, comme vous, et d'ailleurs, c'est bien normal que cette idée vous soit venue, la rue Massenet, solution que nous évoquons d'ailleurs depuis le début de nos réflexions sur le sujet cœur de ville. Pour ce qui concerne le grand site, je pense que vous avez eu le programme entre les mains. On a toujours fait des programmes à deux échelles. Il y avait un certain nombre de documents qui parlaient justement de la programmation à plus large échelle. Sur les trois dossiers retenus, le programme,
j'ai pas eu.
Mais écoutez, j'en suis désolé, voilà. Mais on travaille
toujours à l'échelle. La prochaine fois, vous me donnerez tous les documents.
Bon, j'en serais ravi, vous me les auriez demandé.
Mais non, mais je ne pouvais pas savoir,
soucis,
je vous ai même parlé.
Je n'organise pas les jurys.
Alors, mais ceci dit, je me suis étonnée qu'on n'ait pas d'étude de trafic, et tout le monde a dit, ah bah oui, il y a l'étude de trafic. On ne m'a pas proposé de me la donner. Hein.
J'en suis désolé, les études de trafic ont été faites et étaient en possession des équipes. Je vous prie de croire que quand on propose un projet d'une aussi grande importance, quand on fait un cahier des charges, on donne à tous les cabinets d'architectes qui concourent le maximum d'informations pour que le résultat soit le plus agréable possible. Néanmoins, nous avons un débat, nous avons vu des projets. Quand on regarde ce projet, quand on connaît l'existant, saluons quand même le pas de géant pour notre ville, de retrouver une place de centre-ville, un espace, avec un projet qui est certes perfectible, mais de retrouver enfin une respiration au cœur de notre ville qui manquait quand même de vraiment. Donc là, je pense qu'on progresse, on progresse dans la bonne direction, et je vous rassure, au total, on restera dans l'enveloppe des 3,5 millions, celle qui est prévue pour l'ensemble des travaux.
Donc, en fait, ce que je note, que la contre-allée ne sera pas faite.
On a dit que ça faisait partie des choses dont on discuterait avec les architectes et qui, nous semblait pas une bonne idée. C'est quand même la ville qui reste décisionnaire. On l'a
donc
dès le début.
Le stationnement sera plutôt sur l'autre rue où il y a aussi des...
Le stationnement suivra exactement le même principe qu'on a appliqué jusqu'à présent. On maintiendra le stationnement de surface. Vous en conveniez, comme nous, c'est une nécessité à proximité de certains passages commerçants. Ça sera redistribué en fonction des différentes rues. Et puis, ne l'oublions pas aussi, on a un programme de parking à côté qui est aussi intéressant. Donc c'est tout, là encore, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la petite place, mais sur l'ensemble. Je crois quand même que ce projet, il dégage justement beaucoup cette place centrale. On récupère, vous voyez bien, des espaces publics qui manquaient cruellement dans ce carrefour qui était surdimensionné. Et je pense quand même que non seulement les riverains, mais les pauvres voisins, quand ils voient ça, se disent, bon, là, on va pas pouvoir respirer. Donc certes, ils sont perfectibles toujours, mais on progresse quand même très largement.
Non, puis je rappelle quand même que vous avez consulté les documents, j'ai vu une voir les documents, et vous n'avez pas demandé le programme de l'abbé Pierre sur l'hypothèse aussi, mon dossier du conseil, il y avait ce qu'il fallait. Deuxièmement, ça ne va pas s'arrêter là, c'est très bien qu'on va rejoindre du vieil Charles bien entendu, ça va rejoindre le marché, ça va rejoindre Sarras, c'est arrêté sur une petite place. Non mais je crois que l'architecte que vous avez vu est conscient que ce n'est pas tout à fait celui qu'il aurait choisi, et il se dit qu'après tout, il va pouvoir travailler aussi, parce que les deux étaient. Mais là, qui n'est pas très très loin. Hein. Ils avaient autant de travail sur l'un comme sur l'autre. Donc c'est celui-là qui a été choisi. Il a été choisi. C'est l'architecte qui a essayé de tirer le meilleur de ce projet. Je pense que pour nous, c'est le meilleur.
Donc alors, la conclusion, c'est que je maintiens à ma position, savoir que ce n'était pas le meilleur projet pour moi. Non, mais voilà.
Pour vous, mais pour nous.
Ah oui, ben voilà. Mais moi, je suis en train d'exprimer mon vote, hein, monsieur le maire, si vous me permettez. Voilà. Donc, le groupe votera contre ce projet, notamment pour les insuffisances en termes de circulation et de stationnement, et de non-prise en compte des commerces de la rue Colombes. Et par contre, nous voterons pour, nous demandons un vote dissocié pour bien sûr indemniser les équipes.
Alors, sauf erreur, mais on avait dit que partirait aussi avec les commerçants de la tour, qu'on prépare ce projet-là sans désintéresser les colons. Donc, bien entendu, les commerçants de la rue Colombe sont
intéressés. Non, mais je vous suggère une idée que vous repreniez. Moi, je suis très heureuse, hein, si je suis là pour ça.
Que j'en avais parlé, madame. Bon, personnellement, j'allais attirer ça.
Non, non, n'en avait pas parlé.
Si je puis faire un petit témoignage, soyons honnêtes, on a parlé, on a passé un long moment sur détailler les questions du stationnement, y compris des stationnements d'arrêt minute. Et c'est monsieur le maire qui a insisté en disant qu'il faut qu'on rajoute absolument des stationnements d'arrêt minute devant les commerçants. Étiez, moi aussi, soyons honnêtes, le stationnement d'arrêt
ça ne va pas
devant
tout,
les commerces,
tout,
on en a parlé. Ça
mais c'est pas ça qui va améliorer complètement les situations là-bas. La rue de
Colombe, je suis d'accord. On n'a pas parlé de la rue de Colombe.
Avec les voies départementales, la circulation, les bus, dont on ne sait pas très bien comment tout ça, ça va fonctionner.
Mais je crois que nous sommes parfaitement d'accord sur la nécessité
de la volonté
générale. Enfin, sur la rue de Colombe, on en est.
Mais je crois qu'on en est encore très très loin avec ce projet.
Non, vous verrez, ça sera un beau projet de...
Malheureusement, je vois beaucoup de différence avec l'autre.
Oui,
juste un tout petit point. Je dois quand même préciser que ce carrefour étant un des plus importants de la ville, avant tout, il fallait trouver des solutions pour que ce carrefour fonctionne parfaitement. Donc, il y a eu des mois de travaux avec le Conseil général, des mois avec des comptages, etc. Il y a eu un travail en amont qui était indispensable. Et c'est pour ça aussi que le carrefour en bas a été modifié de façon à ce que tout l'axe fonctionne bien. Vous pensez bien que pour un projet comme ça, en amont, on étudie tous ces problèmes de circulation et de déplacement.
Ah bon, c'était pas ce qui émergeait de ce qu'on disait hein, en réunion. Voilà.
Donc, vous n'y étiez
pas, mais c'est pas ce qui s'est dit.
C'est une loi départementale, vous ne faites pas ce que vous voulez sur les lois départementales, les conseils généraux n'est pas tout prenant, bien entendu. Bon, alors, vous votez pour l'indemnisation vers les architectes et contre le projet, et qui s'abstient ?
Non, pour aussi pour d'autres.
Merci beaucoup. Dossier suivant, la modernisation du pôle Garde-Bécon les Bruyères s'articule autour de trois projets dont chacun une maîtrise d'ouvrage propre, à savoir la SNCF pour le réaménagement de deux bâtiments voyageurs côté Courbevoie et côté Asnières, RFM pour la création de l'ouvrage passerelle et la ville pour le réaménagement des parties de la gare. Pour permettre à chacun d'avoir la maîtrise des terrains nécessaires à ces aménagements, des opérations foncières sont indispensables. Ainsi, la ville cédera deux emprises à la SNCF en vue de l'extension des bâtiments voyageurs. La première surface d'une surface de 227 mètres carrés du côté Asnières et la deuxième 351 mètres carrés côté Courbevoie. Elle cédera à RFF pour l'ouvrage passerelle une emprise de 3 mètres carrés côté Courbevoie. Les emprises représentent 578 mètres carrés dépendant du domaine privé de la ville à la suite du déclassement du domaine public qui a été prononcé par le Conseil lors de sa séance du 29 septembre 2014. Par ailleurs, dans le cadre de réaménagement des parvis, la ville fera l'acquisition d'une part de trois emprises appartenant à la SNCF, représentant au total 130 mètres carrés, et d'autre part de sept emprises appartenant à RFF pour une surface de 442 mètres carrés. Le prix de cession d'acquisition des emprises sera de 300 euros le mètre carré, sur la base de l'avis rendu par la Direction nationale d'intervention des domaines le 10 octobre 2014. Un protocole a été établi entre les parties afin de recenser les actions foncières nécessaires pour permettre la réalisation opérationnelle du projet. Ce dossier a été présenté à la Commission de l'urbanisme du patrimoine et de l'environnement le 8 décembre 2014. Il est demandé au Conseil de décider de céder à la SNCF les 575 mètres carrés, à RFF l'emprise de 3 mètres carrés et d'acquérir de la SNCF des emprises d'une surface de 130 mètres carrés. Décider d'acquérir de RFF une emprise sur face de 442 mètres carrés au prix de 300 euros le mètre carré, d'approuver le protocole établi entre la ville, la SNCF et RFF et de m'autoriser à le signer. M'autoriser à signer des actes de transfert de propriété qui sont établis par la suite, de décider de participer au paiement de frais d'acte et d'autoriser la SNCF et RFF à commencer les travaux sur les emprises qui leur sont cédées par la ville sans attendre la signature des actes de transfert de propriété à leur profit. La grande surface n'a pas de calcul. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Dernier dossier, autorisation pour le dépôt d'une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur de la façade du restaurant La Seine. Vous savez que La Seine est située au chaussée du bâtiment Carrefour qui a connu un incendie le 24 juillet 2014. Cet incendie n'a pas eu pour effet d'affecter les structures portes du bâtiment. Un avis favorable à la remise en service du restaurant a été mis en octobre 2014 par le bureau de contrôle CCI Consult. Cette remise est subordonnée à des travaux de réhabilitation et de réaménagement de l'intérieur de l'établissement. Cette procédure de remise en état a permis de constater l'état de l'ensemble des menuiseries extérieures qui présentent de la corrosion sur certaines parties de l'ensemble. La ville va donc procéder au remplacement de ces menuiseries extérieures. L'application de l'article L421-17 du Code de l'urbanisme, les travaux portant sur la modification de l'aspect extérieur du bâtiment, doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Ce dossier a été présenté à la Commission d'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 8 décembre 2014. Il est demandé au Conseil de m'autoriser la dépose d'une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur de la façade du restaurant La Seine.
On va s'empresser de voter pour, parce que c'est quand même le bâtiment et même nécessitera un rappellement général. Ce serait une peut-être que je voudrais. On va voter pour.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Bon. Dossier suivant. C'est ça.
Règlement intérieur du Conseil municipal. Dans sa séance du en date du 23 juin 2014, le Conseil a approuvé son règlement intérieur. Une commission de réflexion composée d'élus de la majorité et d'élus représentant les groupes d'opposition a été chargée d'étudier les modifications susceptibles d'être apportées à ce règlement intérieur. Certaines dispositions doivent être précisées ou ajoutées. Il s'agit notamment de clarifier